C'est un plaisir pour nous de pouvoir accueillir Marc Levasseur, ce matin avec nous. Et puis, j'ai connu Marc dans mon plus jeune âge, au début du secondaire, je pense, quand tu es déménagé à Québec. Et puis, on s'est côtoyé un peu à l'école chrétienne, à l'école Eau Vive à Québec. Et puis, si j'essaie de me rappeler de ces moments-là, peut-être que je n'étais pas le plus grand chum de Marc à ce moment-là, mais j'étais pas tout le temps ben correct avec les gens autour de moi, mais quand même, je me souviens de Marc. Et puis, Marc avait toujours un amour pour la chasse, la pêche, puis il nous partageait ça. Mais nous autres, on était complètement déconnectés. Mais lui, il aimait ça, puis il nous partageait ça. J'ai un souvenir de ça, puis ça, c'est bon. Mais on voit que c'est un gars qui aimait les terres seules et puis être seul. Puis là, aujourd'hui, le Seigneur a transformé cet amour-là pour la chasse, la pêche, pour aller vers les Premières Nations. Et puis aujourd'hui, le Seigneur l'a appelé au ministère et ça fait déjà quelques années qu'il exerce un ministère auprès des Autochtones. Marc a déjà fréquenté l'Église ici pendant quelques temps. Et puis maintenant... Il sent que le Seigneur l'appelle à œuvrer à plein temps dans ce ministère-là. Il va venir nous parler du ministère auprès des Autochtones et puis nous apporter le message, la parole. Et je vous invite à l'accueillir avec moi. Marc, viens avec nous.
Ça fait toujours drôle quand le micro fonctionne. Oui. Ça fait toujours drôle quand c'est des gens qui nous ont connus... Ah, il est supposé être allumé. Ouais. Il me faisait des petits signes en arrière. C'est beau? Bon. C'est toujours drôle quand c'est des gens qui nous ont connus plus petits, qu'on a cheminé avec. Effectivement, j'assistais à l'église ici, mais quand on était sur Lafayette, c'est ça? En 97, 98, 99, j'ai vécu avec deux super colocs. Mathieu Ferland, des admiratrices de ces colocs-là, je pense. Mathieu Ferland puis Bruno. Ah, des bonnes années. Ça m'a fait vraiment drôle quand je suis rentré ce matin. On dirait que ça n'avait pas changé ou presque. Mon nom est Marc Levasseur. Vous pouvez allumer mon PowerPoint, mettre la photo de ma famille, s'il vous plaît. Mon nom est Marc Levasseur. Ma jolie épouse, j'ai été béni par Dieu, Salomé Béliveau. Nos trois enfants, ma plus vieille qui a maintenant 4 ans, Cléopée, mon garçon 2 ans, Yakim, et mon dernier, Caniel. Tous des noms un petit peu spéciaux, là. C'est la maman qui trouve ça. Maintenant, c'est-tu beau, c'est-tu pas beau? Ouais, c'est beau. Moi, je trouve ça beau. Ils ont des noms spéciaux. J'aime le nom de ma femme, j'aime le nom de mes enfants. On s'est rencontrés, moi et Salomé, en 2000, à Parole de vie Bethel. On s'est mariés en 2002. Ça va faire 10 ans qu'on est mariés maintenant. En 2000, je vais assez vite dans ma présentation, je ne veux pas perdre la journée là-dessus. En 2005, alors que j'étudiais au bac en théologie à Québec, c'est là que Dieu nous a donné un fardeau profond pour les Premières Nations. En passant, oui, je suis métisse autochtone. Oui, je suis d'origine autochtone par ma mère qui m'a élevé depuis que j'ai l'âge de 3 ans à chasser, pêcher. Et je passais pour un extraterrestre à l'école secondaire parce que ma mère, à 11 ans, me donnait une carabine avec une boîte pour moyen dans le bois pendant une semaine. T'sais. Les autres, comme. Les autres, ils étaient au PlayStation encore. T'sais. Ils jouaient à Duck Hunt sur Nintendo. Moi, je le faisais pour vrai. Petite différence. Mais. Bon, je suis en train de déraper encore. Mais c'est ça, le fardeau en réalité, des fois l'appel, le fardeau, c'est des choses un peu mystiques. Il y a toutes sortes d'histoires à propos de ça. En réalité, moi je le résume assez simplement. Si vous allez dans Matthieu, où tu sais, juste avant le verset, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, priez de mettre la moisson, envoyer des ouvriers. C'est pas ça, attends 2 secondes. Juste avant ce passage-là, il y a un verset où Jésus il regarde la foule. Puis Jésus, il dit, il est ému de compassion parce que la foule est abattue, elle est triste, elle est perdue, elle n'a pas de berger. Le fardeau, c'est exactement ça. C'est un amour puissant, sacrificiel que Dieu te donne qui dit, je vais aller sacrifier ma vie pour ces gens-là, par amour pour eux. Parce qu'ils sont perdus, sont abattus et ont besoin de venir à Christ. Ce fardeau-là, on l'a eu en 2005. Ça a pris au-dessus d'un an à faire plein de démarches. À ce moment-là, nous, devant Dieu, moi et mon épouse, on n'avait même pas d'enfant encore. Et notre liste de critères était simple. On voulait travailler en même temps que faire le ministère. Il n'était pas question qu'on allait une scène à personne. C'était, j'ai dit à Dieu, je vais faire le ministère, jamais je vais aller quêter un sou. Dites jamais des jamais. Après ça, l'autre critère, c'est, je m'étais jamais vu dans un rôle de pasteur, jamais vu dans un rôle de missionnaire vraiment. Mon cœur était vraiment à dire, ben, aller dans une petite communauté isolée, je vais faire du 1-1 sur le bord d'un feu de camp avec des jeunes, les amener à la liberté en Christ. Dieu, il fait ce qu'il veut après. T'sais. Il tapote d'un bord, là, mais après ça, là, ouh, ta vie, tu suis puis t'obéis. Finalement, on a atterri, pas où ce qu'on voulait aller, c'est-à-dire Shefferville ou La Romaine, mais on a atterri dans la région de Ouachat, sur la côte nord. On a, grâce à un emploi que j'ai eu au pénitencier de Port-Cartier. Là, je suppose qu'on a été rendu dans... et voilà, mes trois chapeaux. En réalité, c'est ça, j'ai plusieurs tâches actuellement et depuis 2007 qu'on est dans le ministère. Ça veut dire que depuis 2007, ma famille s'est établie. Fait que ça a été tout un rôle très important dans ma vie auquel je consacre du temps sérieusement. Mon deuxième rôle qui a permis de vivre jusqu'à maintenant et qui a rapporté de l'argent et payé toutes les factures, c'est celui d'être agent correctionnel au service correctionnel canadien. Je fais 5 ans en pénitencier sécurité maximum. Actuellement, j'ai été formé pour être agent de réinsertion pour les détenus autochtones au Canada. C'est vraiment intéressant, mais je travaillerai là-dedans jamais, parce que je viens de finir ma formation. Mais Dieu nous appelle vraiment à aller à temps plein dans l'œuvre avec ce qui est maintenant l'organisme Renaissance autochtone, dont je suis l'un des fondateurs avec Terry Cuthbert. C'est un nom que vous connaissez, qui est le président de cette organisation-là, qui s'est impliqué avec moi depuis les débuts, qui a été fondé en 2008. On peut tourner. Marc, le premier verset, s'il vous plaît. Je veux commencer par des versets. Versets très simples, très connus, dans Matthieu 28, qui est la mission, dans le fond, de tout croyant. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Un verset qu'à peu près tous les croyants connaissent, qui passe assez rapidement dans leur tête, tu sais. Est-ce qu'on réalise à quel point, tu sais, ça c'est Jésus qui parle, qui dit à ses disciples, allez et faites des disciples. Est-ce qu'on se l'approprie premièrement? Est-ce qu'on dit, oui, c'est la mission de tout croyant d'aller et faire des disciples, mais sommes-nous vraiment en train de faire des disciples? T'sais? Est-ce qu'au quotidien dans votre vie, de tous les jours, de toute la semaine, est-ce que vous êtes en train de faire des disciples? La question qui vient avant, souvent, c'est « Êtes-vous premièrement un disciple mature? » Moi, j'aime beaucoup comparer la maturité spirituelle avec la maturité physiologique. Maturité physiologique, c'est simple. Tu as un bébé qui naît, ensuite tu as un enfant, ensuite tu as un adolescent, ensuite tu as un adulte qui devient un parent, ensuite des aînés, des grands-parents, souvent. J'aime beaucoup comparer la maturité spirituelle avec ça. Tout simplement qu'à la nouvelle naissance, puis la Bible elle compare souvent beaucoup les étapes de la vie d'un croyant avec ces stades-là. La nouvelle naissance, pourquoi une nouvelle naissance? On devient un bébé spirituel. Un bébé spirituel qui a besoin que quelqu'un l'accompagne. Si personne ne s'occupe d'un bébé, il meurt. C'est pas compliqué, c'est une loi de la nature. Laisse le bébé là, occupe-toi-en pas, il crève. Mais un bébé spirituel, c'est la même affaire, il faut que quelqu'un s'en occupe. Sinon, ben, une chance que Dieu existe. C'est pas une loi officielle, mais Dieu va prendre soin de lui, mais en réalité, c'est notre tâche. Ensuite, ça devient des adolescents. Adolescents spirituels comme adolescents physiques, c'est ceux qui veulent révolutionner la planète et sont pas capables de s'occuper de leur garde-robe. Ça, c'est l'image qui me vient en tête quand je pense aux adolescents. Ils sont prêts à militer, ils pensent qu'ils ont tout compris. Là, les adolescents vont dire, ben là, qu'est-ce qu'ils disent là? Ils pensent qu'ils ont compris toute la vie. Ils pensent que, ouais, ils l'ont pas l'affaire, puis même ça devrait être fait, mais ils sont même pas capables de s'occuper de leur garde-robe. Mais souvent, les adolescents spirituels sont de même. C'est celui qui vient ostiner sur tel point de théologie, qui va se débattre sur des choses, mais sa vie chrétienne est un peu de la misère. Puis en réalité, tu vois pas qu'il est en train de passer à l'étape suivante qui est d'être un parent spirituel, un disciple qui se reproduit dans d'autres disciples. Où vous êtes rendu maintenant dans votre vie chrétienne? Êtes-vous de ces disciples? Comment vous considérez-vous mature? C'est une question au choc. Hein? Si vous dites que vous êtes rendu à une certaine maturité, je vais vous poser la question suivante. Êtes-vous en train de vous reproduire? Êtes-vous en train de faire d'autres disciples? Êtes-vous des parents spirituels? Ou êtes-vous encore mieux des aînés spirituels, des grands-parents qui aident les parents à s'occuper des autres, qui sont tournés vers la communauté et qui font un don de soins incroyable? C'est pourtant la mission que Dieu nous appelle tous en tant que croyants. Pas juste être des gens qui ont pris un salut, dire « Ah, j'ai gagné au loto, puis je me coule douce. » Mais de consacrer notre vie à faire d'autres disciples. Deuxième texte. Acte 1, 8. Autre texte très connu, qui est ensuite en réalité la suite de l'autre. OK, oui, on va faire des disciples. Puis c'est la suite... J'écoutais le cours à Alexandre ce matin, puis j'étais comme, toute l'introduction de mon message. Acte 1, 8. « Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. » Et un autre verset hyper connu, tout, dans toutes les missions ont quasiment ce verset-là comme base. Encore Jésus qui parle à ses disciples, qui leur donne un ordre, mais qui en réalité inclut tout l'ensemble des disciples maintenant de Dieu. Ce qui est intéressant et que je veux amener, c'est la gradation qu'il y a dans ce passage-là. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem. Jérusalem, même ville, même culture, c'est ta famille, comme Alexandre parlait, ta famille, tes amis, les gens où vous travaillez. Pour ceux qui ont un emploi dans, supposons, à Pratt et Whitney, ben ton champ missionnaire, c'est Pratt et Whitney. Tu es un missionnaire à Pratt et Whitney. C'est Jérusalem, ta même ville, ta même culture, ton monde, les gens qui sont semblables à toi, avec qui tu as des affinités, que tu partages souvent une culture qui est similaire, assez homogène. Ensuite, il gradue dans toute la Judée. La Judée, qui est dans le fond la province du Québec. Je regarde rapidement. C'est sûr que quand je viens dans la région de Montréal, c'est pas si facile de faire cette affirmation-là. Quand je suis en région, c'est facile de dire, là je parle des Canadiens français, d'origine européenne française, donc blanc. Ici, on parle d'un mélange un peu plus. Mais pour les Canadiens français blancs, ben ça pourrait représenter la province du Québec canadienne française, votre Judée, votre culture avec laquelle vous êtes habitué, votre langue, vos... C'est à peu près la même situation. Ensuite, il gradue, il passe à l'autre étape et il dit la Samarie. Ça, c'est le bout que tout le monde oublie. De tout mon jeune temps, on entendait parler, oui, Jérusalem, commence par t'impliquer dans ta ville, dans le monde, puis après ça, tu iras aux extrémités de la terre. C'est ça qu'on entendait souvent comme message dans les églises. On dirait qu'ils ont oublié des bouts. La Samarie, c'est quoi la Samarie? C'est fun, là, deux semaines, il y en a un, il m'a dit, ah, ça, c'est les Ontariens. Je l'ai trouvé bonne. En réalité, oui, ça pourrait représenter les Ontariens. La Samarie, tout simplement, quand on va dans le contexte juif, un Samaritain, c'était pas un ennemi des Juifs, ben. Pourtant, ils vivaient dans le même espace géographique. Mais ce qu'on voit, c'est des préjugés immenses, une différence de culture, une différence au niveau des langues, une différence au niveau de plein de choses. Puis ils ne s'aimaient pas. Ils ne s'aimaient pas pantoute. Fait qu'à ce point-là, oui, les Ontariens pourraient finalement. Pour bien du monde. Mais ce n'était pas le but d'amener aux Ontariens ce matin. En réalité, les Samaritains représentent les exclus. Les gens avec qui on n'a pas une facilité, mais même des préjugés, de la haine, qu'on dirait on va aller prêcher le salut à tout le monde, mais pas à eux. Ce n'est pas naturel de parler avec ces gens-là. Les Autochtones figurent parmi les gens pour l'équipe, pour les Québécois, sont vos Samaritains. Et vous êtes pour eux leurs Samaritains. J'aime ça, amener ça, ce parallèle-là, juste pour que vous voyez que c'est pas juste vous par rapport à eux, mais eux par rapport à vous aussi. Là. On est tous égaux, là, quelque part. Là. Et jusqu'au bout du monde. La réalité, c'est que les églises, en tout cas au Québec, on connaît beaucoup plus l'Haïti, l'Afrique, qu'on connaît les communautés autochtones qui sont ici dans votre cour arrière. On connaît les besoins de l'Afrique, on connaît les besoins de l'Haïti, de l'Amérique du Sud. Les missions, même, tu sais, même le Québec t'a dit que c'était pas une place qui envoyait des missionnaires, on en envoyait de plus en plus. Même, je trouve que les églises sont très ouvertes sur la mission jusqu'au bout du monde. Mais est-ce qu'on est conscient de notre Samarie? Ce champ missionnaire-là que vous avez dans votre cour en arrière. Puis c'est ça que je vais vous parler ce matin. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Qui sont les Autochtones? Là, j'ai fait une affirmation comme quoi que la plupart des Québécois avaient des préjugés envers les Autochtones. Vous allez être les seuls à être l'exception, je suis sûr. Mais on va vérifier ça. On va faire un test de culture générale ce matin. Fait qu'il va falloir que vous participiez avec humilité, avec ardeur et... On va commencer par des questions simples, assez simples. Qui a déjà été dans une communauté autochtone? Levez la main, là. Hey boy! On n'est même pas à 50%. OK. C'est vrai que la dernière église, j'ai été, il restait à côté d'une communauté. Fait que ça a tout élevé en main. Pas beaucoup de monde. Là, je ne demanderais pas qui a déjà été mangé dans une maison avec des Autochtones, dans une communauté. Ah, il y en a. C'est-il, Wacha? Take out. C'est bon. On va y aller avec des questions un petit peu plus corsées. Qui serait capable de m'expliquer c'est quoi les pensionnats indiens? Pensionnats indiens. Là, expliquez-moi-le pas. Là. Souvent, j'ai une madame. Oui, c'est... Les pensionnats indiens. Sérieusement, là, je veux voir la main debout, ceux qui sont capables de m'expliquer c'est quoi les pensionnats indiens. J'ai dit que vous alliez être l'exception. À date, vous êtes les pires. Les fameux pensionnats indiens. OK. Il y a une question plus facile. C'est là que vous demandez un petit peu d'humilité. Qui sait que des Indiens, ça boit, ça fait des barrages routiers, ça vend des cigarettes? Levez la main. Levez la main. Bon. Vous savez, même quand je fais des présentations où je voyage un peu partout, habituellement, le monde vient de me voir assez régulièrement, puis il dit, hey, Marc, je vais t'expliquer c'est quoi le problème avec les Indiens. Mon cœur, il saigne des fois. Là. Moi, c'est mon monde. Ça brûle en dedans. Je vais t'expliquer c'est quoi le problème avec les Indiens. Puis là, ils partent de, on les paye à rien faire, ils nous coûtent cher, ils payent pas de taxes, c'est des alcooliques, ils font des barrages routiers. Mais surtout, c'est une gang de lâches qu'on paye à rien faire. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà sorti des mots de même de sa bouche ici présent? Levez la main. Qui a jamais... Ne levez pas la main, là, vous regardez le plancher. Qui a déjà sorti des mots de même ou entendu des mots de même? C'est la perception qu'ont la majorité des Québécois, des Autochtones. On va voir si c'est la perception que vous allez avoir dans 15 minutes. Mais là, on ne va pas à la pause, là, on va continuer. Bon, une autre question pour les profs d'histoire. En quelle année a commencé l'Amérique? L'histoire de l'Amérique? Ah. Il y a plein de dates. En mille avec les Vikings. Après ça, il y en a eu d'autres. Je recule plus loin. 1492, Christophe Colomb d'un Caraïbe. Les Espagnols, ensuite les Britanniques avec John Cabot. Puis plus proche de nous... Tu peux tourner la diapositive. Notre ami Jacques Cartier. Oh, on revient d'une. Notre ami Jacques Cartier, 1534. Mais il y avait une pogne dans la question que j'ai posée. Là. J'ai demandé en quelle année a commencé l'histoire de l'Amérique. Vous avez dit 1534. C'est quoi, il n'y avait personne avant? L'histoire, elle commence en quelle année de l'Amérique? Elle commence avec qui? Les Autochtones étaient là ou pas là? Hein? C'est juste pour vous amener à réaliser que la perception d'un cours d'histoire qui est enseigné, c'est les Français, Jacques Cartier, entre autres, ils arrivent en 1534 dans un pays sauvage, inhabité, avec deux, trois petits peaux rouges, à moitié tout nus, sur le bord d'une plage, qui faisaient pitié, pas civilisés, qui ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient, parce qu'ils faisaient pitié. Puis ils étaient sauvages, barbares, puis, tu sais, en petites poches isolées. Ça, c'est la carte qui représente le premier voyage de Jacques Cartier. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu lis le livre de voyage de Jacques Cartier, il parle de, j'ai regardé sur ma carte, puis sur sa carte, il y a des choses de localiser déjà. Un, il y avait déjà une carte. Ça veut dire que Jacques Cartier n'était pas le premier à venir. Et deuxièmement, ce qui est intéressant quand tu regardes sa carte, c'est que tu as déjà des noms comme Stadacone puis Hochelaga. Ça vous fait penser à de quoi, hein? Hochelaga, Hochelaga Maisonneuve, au bord, j'ai déjà resté là. Hochelaga Maisonneuve. Ça, c'est la carte du premier voyage de Jacques Cartier où il a atterri à Pointe-de-Gaspé. Mais juste avant ça, Hochelaga, dans son deuxième voyage, Jacques Cartier, quand il est rentré dans le fleuve Saint-Laurent, quand il est arrivé à Hochelaga, il dit, je suis arrivé face à une petite ville comptant en moyenne 1500 à 2000 habitants, lieu du commerce. Une petite ville. Ah, je viens déjà de travailler un point. Il est arrivé face à une ville. Un lieu de transition de commerce. Ça veut dire une économie. Puis là, si vous alliez plus dans les Grands Lacs, vous tombiez face aux Wanda, les fameux Hurons de Québec. Parce que les Français, ils ont appelé les Hurons à cause de le Hur, le Mohawk. OK? Mais en réalité, leur nom, c'est Wanda. Mais les Français, pas de temps à perdre. On ne demande pas comment tu t'appelles, on te donne un nom. Pas plus compliqué que ça. Okay? Comme les Montagnais, c'est des Inus. Puis des Cris, c'est des Ayu. Puis des Algonquins, c'est des Aishinabés. Mais non, on leur donne d'autres noms. Pas compliqué. En réalité, Ayu, Aishinabé, Inu, ça veut dire toute la même chose. Être humain. Le peuple humain. S'il aurait demandé à un Autochtone, t'es quoi, toi? Il aurait dit, ben, je suis un Inu. Mais Inu, ça veut dire, je suis le peuple humain. Je suis un être humain. Mais non, on aimait mieux les considérer comme des petits sauvages tout nus. Note Jacques Cartier, qui était quand même conscient de tout ça. Les fameux Wanda, qui étaient à 30 000, qui vivaient dans des villages de 1 500 habitants, qui faisaient de la culture, qui voyageaient vers le chemin commercial du Saint-Laurent, qui servait de Montréal comme une plateforme de commerce. Pourquoi le commerce? Parce que la viande, le poisson venaient de la Gaspésie. Encore comme aujourd'hui. Mais dans son premier voyage, Jacques Cartier a arrêté à Pointe-de-Gaspé. Tu peux tourner. À Pointe-de-Gaspé, il a rencontré des Iroquois. Les Iroquois, justement, qui étaient maîtres de la ville de Stadacone et de la ville d'Hochelaga, qui étaient, eux, les commerçants, qui étaient allés rejoindre des Mi'kmaq, Mi'kmaq en français, les Mi'kmaq, OK, qui étaient allés rejoindre les Mi'kmaq qui faisaient de la pêche sur la mer. Jacques Cartier il a arrêté là, pas parce que ça y tentait, mais parce qu'il y avait à peu près 300 canots autour de son bateau. Puis que les gens embarquaient, puis ils commençaient à jaser avec comme ils pouvaient. Là. Il y avait comme une barrière de langue. Fait qu'il a comme jeté l'ancre à l'eau. C'est le fun de regarder l'image, hein? De Jacques Cartier debout, fier, qui pointe. On dirait qu'il y a 400 soldats en armure, tout en métal, puis deux Indiens tout nus à genoux sur la plage. C'est ça l'image. C'est ça les images des livres d'histoire. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu lis son livre de bord, Jacques Cartier, il y avait 61 hommes d'équipage pour 400 hommes en armure. 61 hommes d'équipage. Jacques Cartier avait la chienne, bien raide. Il avait peur parce qu'à ce moment-là, il y avait, quand il a arrêté, juste les Iroquois, pas les Mi'kmaq, qui faisaient de la pêche, pas les femmes, pas les enfants. Juste des hommes Iroquois qui étaient là pour aller chercher du poisson, l'amener vers le Montréal, Hochelaga, puis vers les autres pour faire du troc. Il y avait 300 hommes Iroquois, avec leur grand chef Donnacona, un autre nom qu'on connaît. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir passé une semaine à marchander, Jacques-Cartier avec les Autochtones là-bas, échanger des fourrures, des objets autochtones contre des pièces de métal et d'autres objets. Après une semaine, Jacques-Cartier a planté la croix, la fameuse croix de la pointe de Gaspé. Puis ce qui est écrit dans un récit, c'est que le chef d'Anacona, il avait trouvé un moyen de communiquer, je suppose, après deux semaines. Il voulait savoir qu'est-ce qu'il y avait, à quoi servait ce poteau de bois-là, le arbre-là planté là. Et ce qu'ils ont répondu aux Autochtones, c'est pour que mes qu'on revienne l'été prochain, pour pouvoir encore marchander avec vous, qu'on sache où venir accoster. Pour un chef autochtone, il vit du marchandage, du commerce. Hey, un nouveau partenaire commercial ayant du métal, hey, lui, c'est jackpot. Il va prendre le monopole, puis super, ça va bien. La réalité, c'est qu'il y a un petit panneau sur la croix. Puis en réalité, ce petit panneau-là explique toute la vision des Européens face aux Autochtones. Ce panneau, c'est marqué « Au nom de Sa Majesté François Ier de la Sainte Église catholique, je prends possession de cette terre. » Il faut être fendant un peu. 61 hommes face à des centaines d'hommes. Il les trompe, il les manipule, tend son piquette, puis « Je suis chez nous. » Et voilà comment commence l'histoire française en Amérique. C'est l'histoire du Québec qui commence comme ça, du Québec qu'on connaît aujourd'hui. En réalité, quand Jacques-Cartier est arrivé, il y avait en Amérique environ 50 millions d'Autochtones, Amérique du Nord, Canada, États-Unis, Mexique. 50 millions. Juste au Canada, qui est le plus nordique, c'était 10 millions d'Autochtones. 500 nations différentes. Des années 1500, on va aller dans les années 1850 à peu près. C'est guerre, extermination, l'esclavage. Avant d'avoir des esclaves noirs en Amérique, c'était les Autochtones. Même au Québec, il y a eu des milliers d'esclaves autochtones. C'est surtout les congrégations religieuses qui étaient détenteurs de ces esclaves-là. Les panis, qu'on appelait. Faites une petite recherche Google. Exterminés. Quand ils sont arrivés vers les années 1850, 95% des Autochtones avaient disparu. 95%. À partir des années 1850, là, on devenait plus structuré au niveau politique. Là, on a changé le fusil d'épaule. Belle expression. Puis on a commencé des politiques, avec le peu de sauvages qui restaient, d'assimilation. En 1876, tu peux tourner la carte. En 1876 a commencé la loi sur les Indiens, la mise en réserve et les fameux pensionnats indiens que personne ne connaît ici. Personne, sauf peut-être 10 personnes. Au Québec, il y avait 6 pensionnats indiens. En réalité, les pensionnats indiens, il y en avait partout au Canada. Au Québec, principalement, ils étaient détenus par les catholiques et un anglican. Mais si vous allez dans l'Ouest canadien, il y avait des presbytériens, l'Église unie, et même il y avait un pensionnat baptiste. Fait qu'on ne commencera pas à jouer des guerres de clochers. Le pensionnat indien, c'était une politique gouvernementale d'assimilation qui s'appelait « We must kill the Indian the child ». On doit tuer l'Indien dans l'enfant. Tout simplement, on prenait des enfants de l'âge de 4 ans, on les enlevait de force aux parents, et ensuite on les amenait dans des résidences fermées. Comme vous voyez là. La plupart de vous autres, vous étiez nés dans ces dates-là. Hein? Le dernier a formé en 80 au Québec. 1980, pas 1800. Là. 1980. On les amenait dans les pensionnats. On leur coupait les cheveux. On les nettoyait à l'eau de Javel pour les désinfecter et les blanchir. On leur interdisait de porter tout linge et images autochtones. On les habillait en bon petit blanc. On leur interdisait de parler leur langue autochtone sous peine de sévices corporels. Et en réalité, tous les survivants des pensionnats autochtones sont actuellement à la génération des grands-parents. Je n'ai pas trouvé un qui n'a pas été abusé sexuellement, qui n'a pas été battu physiquement. 7 générations consécutives où ce que tous les enfants à partir de l'âge de 4 ans sont enlevés aux parents. Après ça, ils deviennent des adolescents, on les remet dans leur réserve. eux-mêmes, ils ont des enfants, on enlève leurs enfants. Cette génération où ce que les parents savent plus c'est quoi être parent parce qu'ils n'ont plus d'enfants. Et les enfants savent plus c'est quoi être un parent parce qu'ils n'ont jamais été élevés autre que par des pères et des sœurs catholiques ou des gens qui ont abusé d'eux. Cette génération, c'est la génération des grands-parents. Il y a juste 28% des Autochtones qui ne payent pas d'impôts sur le revenu. Il y a 90 000 survivants des pensionnats actuellement en vie. Pourtant, vous saviez tous qu'ils ne payaient pas de taxes. Mais vous ne saviez pas l'histoire des pensionnats. Tu peux continuer. Les images vont accélérer parce qu'on va être cet après-midi. Un beau avant-après. C'est beau, hein? On tourne. En juin 2008, pour la première fois, le gouvernement a arrêté de nier l'existence des pensionnats. Puis Stephen Harper a fait des excuses publiques concernant les pensionnats indiens. Vous pouvez aller sur YouTube partout, là, vous allez voir les textes, c'est très intéressant. On continue. Ça, c'est la génération des grands-parents. Cette génération qui ont été battus, abusés. Ça amène exactement le climat social actuel. Sous-scolarisation, la moyenne canadienne de diplômés, diplômes secondaires, c'est 70%, 70-71%. Dans les Premières Nations, la moyenne canadienne est à 30%. Dans les communautés où ce que nous, on travaille ici au Québec, on parle de 5-10%. Diplôme d'études secondaires. Alcoolisme et toxicomanie précoce. Les statistiques de l'année dernière au Québec de gens vivant sur réserve, pas les Autochtones hors réserve, mais ceux vivant sur réserve, on approchait, tout dépendant des communautés, mais la moyenne globale était jouée à peu près autour de 75-80%. Pauvreté. Tu sais, on a pensé, ils sont riches, ils ont de l'argent. La réalité, c'est que le financement qui coûte un petit enfant autochtone versus un petit enfant blanc ou un de vos petits-enfants, à vous, c'est qu'un autochtone coûte à peu près 60% au gouvernement en subvention versus ce que coûtent vos enfants qui vont à l'école. Ce que le gouvernement paye par tête pour vos enfants pour les envoyer à l'école, puis ce que le gouvernement paye par tête d'un enfant autochtone pour qu'il y ait à l'école, c'est 60% de ce que vos enfants reçoivent. Abus physique et sexuel, ben c'est une chaîne. Hein? Tu as élevé pendant des années des gens, tu les as éduqués en les violant et les battant. Après ça, tu t'étonnes que quand eux eux-mêmes éduquent leurs enfants, ils vont les battre puis les violer. Les gens ont tendance à reproduire ce qui était leur normal et ce qu'ils ont vécu. Là. Ça excuse rien du tout. Là. Criminalisation. Les Autochtones représentent 2% de la communauté des gens au Canada. Ils représentent juste au niveau des institutions fédérales, c'est-à-dire sentence de plus de 2 ans, 20% des détenus chez les hommes, puis 30% des détenus chez les femmes. C'est-à-dire 3 détenus sur 10 au fédéral, c'est un Autochtone en moyenne. Placement important d'enfants. La dernière statistique, c'est que tout près de 51% des enfants au Canada sont des Autochtones, des enfants placés à famille d'accueil. Un enfant sur deux. Là, la plupart des gens rendus là, ils disent « Ouais, mais c'est normal, là. Puis une chance qu'on enlève les enfants, là. As-tu vu les parents qui sont? » Mais imaginez-vous que vous êtes un parent qu'on a enlevé à ses parents quand vous aviez 4 ans, qu'on a placé avec des prêtres, des curés qui vous ont abusé. Puis là, vous avez des enfants, puis tout ce que tu vois, c'est la petite étudiante blanche qui vient de finir son bac, puis qui veut payer ses études, qui débarque chez vous avec 2-3 policiers qui embarquent vos enfants puis qui les amènent ailleurs. C'est l'histoire qui se répète. Les Autochtones ne comprennent pas. Ils comprennent même pas dans une certaine mesure, qu'ils ne sont pas des bons parents. Ils essayent de faire de leur mieux avec ce qu'ils ont eu. Puis je suis pas en train d'excuser rien. C'est juste pour vous amener à comprendre l'autre dimension, l'autre point de vue. Recherche d'identité, pression sociale négative. Ils ont perdu leur culture initiale pour une culture qui est complètement mélangée. Et la pression des abus, de l'injustice, cause qu'actuellement, il y a une pression sociale d'autodestruction complète au sein des communautés. La plupart des communautés sont en train de se détruire, d'imploser littéralement. On tourne. L'organisme Renaissance autochtone, notre mission est d'apporter la guérison dans les vies des Autochtones par l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul chemin de réconciliation avec le Créateur. Faire des disciples. Comment qu'on fait ça, toi? Notre champ missionnaire, une vingtaine de communautés. Il y en a 59 au Québec, mais nous, on veut se concentrer dans une vingtaine qui, eux, ont été en contact avec les Français. Ça veut dire que leur langue première ou leur langue seconde, c'est le français. Ça représente actuellement 40 000 Autochtones sur réserve. Actuellement, il y a encore 10 communautés là-dedans qui n'ont jamais été évangélisées. Rien. Il y a des croyants dans 5 communautés, principalement, sur les 20. Puis on n'a même pas une centaine. On continue. Tu peux toutes les ouvrir, là. Pourquoi qu'il y en a juste une centaine? Parce que travailler avec les Autochtones, c'est premièrement s'adapter à leur culture, adapter à eux qui sont ou ce qu'ils sont actuellement. Vous travaillez avec des gens qui ont été battus, violés au nom de Dieu. On sait que c'est pas Dieu qui voulait ça. On sait que c'est pas vraiment le nom de Dieu. Mais dans leur tête, c'est enregistré que c'est au nom d'une religion de blancs avec un mot qui s'appelle Dieu. C'est, fait que le travail à faire avec eux, c'est une implication relationnelle. Créer un lien de confiance avec toi, avec eux, pour les amener à eux à avoir une relation avec Dieu. Tu sais, on prêche continuellement que la vie chrétienne, c'est une relation, puis c'est pas une religion. Puis c'est la réalité. La vie chrétienne, c'est pas une religion. C'est vraiment d'avoir une relation personnelle avec le Créateur de l'univers grâce au salut en Jésus-Christ. Mais on parle de relation. Relation, c'est quoi? C'est faire confiance, savoir que l'autre nous aime, puis nous l'aimer. Imaginez que vous avez été battu, violé. Que... La notion de confiance. Si vous avez été trahi par quelqu'un dans votre vie, là, essayez de faire confiance maintenant. Mais si dans votre vie, vous avez à peu près 150 viols de vécu, la notion de confiance, d'amour, là, c'est inconnu. C'est inexistant. Fait qu'imaginez l'amener en relation avec Dieu. Goûter l'amour de Dieu. Faire confiance à toi, puis qui va l'amener à découvrir qui est Dieu, qui est Jésus-Christ. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui est difficile. Je manque de temps, fait que je vais gauler. Next. Notre vision, mise en place d'équipes d'ouvriers dans les diverses communautés. Des équipes d'ouvriers. On a enlevé le terme missionnaire, parce que c'est pas très à la mode. Ils les ont connus, puis ils les ont pas trop aimés. Et l'autre terme qu'on utilise, c'est équipe. On travaille en équipe. Comme actuellement, on avait 4 équipes, maintenant on est rendu à 3 équipes. On a une équipe comme à Wemontashi, Latuk, qui travaille avec les Atikameks, qui travaille aussi dans la ville de Latuk. Il y a un gros rassemblement autochtone là. On travaille les deux en même temps. On a 11 personnes qui travaillent là-bas. Si on travaille en équipe, ben c'est long. C'est dur. On a besoin de... Tu sais, c'est pas une campagne d'un raid, d'un sprint, là. C'est des marathons, mais avec une intensité incroyable. Tu sais. Développement de programmes de formation. Tout est à faire. C'est-à-dire, on doit être capable de former des ouvriers à travailler avec ce contexte autochtone-là. On va deux fois dire qu'on développe des outils au niveau de la relation d'aide, au niveau de la formation de disciples, qui est contextualisée avec toute la tradition ancestrale. Aller chercher les vraies racines. Ceux qui connaissent les concepts animistes savent que animisme souvent égale syncrétisme. C'est-à-dire une ouverture à mélanger tout plein de croyances. Fait qu'il faut apprendre à travailler avec ces choses-là. Et développement d'infrastructures qui est actuellement le projet qu'on a devant nous, qui est de faire un centre de formation et de guérison pour les Autochtones, un centre de thérapie chrétien. Je vais aller super vite dans les images juste pour que vous envoyiez l'équipe de Wemontashi Latuk. Tu peux les tourner assez régulièrement. Ça, c'était notre premier bâtiment initial qu'on a eu par la grâce de Dieu, une histoire longue que j'ai pas le temps de compter un matin. Finalement, en 2010, on a eu la grâce, par la grâce de Dieu, on a eu du financement, à peu près 64, 67 miracles qui sont produits. J'exagère à peine. Ce que je veux dire, ça a été on est parti avec rien en poche, puis un mois et demi plus tard, on avait le bâtiment en bas. Avec zéro dette. C'était fou. Il y a eu le feu de forêt. Tout a voulu brûler. Mais Dieu était plus fort que ça. Tu peux tourner l'image. Ça, c'est notre bâtiment actuel. Hier, j'étais à Wemontashi. J'ai fait un petit aller-retour. C'est rien que 5 heures de route. C'est pas loin. Le chemin était défoncé. Le chemin de boue, en plus, ça a été rough. Mais à côté de ça, il y a un autre bâtisse que j'ai été voir hier, justement, parce qu'on vise à l'acheter pour faire un centre de thérapie. C'est une auberge avec 9 chambres à coucher, une cuisine commerciale, puis tout, puis le propriétaire veut nous vendre ça. C'est un Atikamek qui, lui, a arrêté de boire parce qu'il a connu l'Évangile. Puis il l'affichait à 170 000 il y a un an. Puis hier, il voulait me parler, il m'a écrit un email cette semaine. Fait que je suis monté, je suis allé le voir. Il dit, je te laisse ça avec tous les lits, la literie, les serviettes, l'équipement de cuisine au complet. Il dit, 70 000 piastres. Ah, super, mais il me reste à trouver 70 000 piastres. Je dis, ouais, on va prendre possession en mai. Là, il faut que je trouve le 70 000. Ça, c'est avec le groupe de parole de Vibetel. Tourne l'image. Ça, c'est dans notre bâtiment actuel. Ça, c'est la façon qu'on travaille. Les gens, ils viennent à nous. On va pas de porte en porte faire de l'évangélisation. Ils sont allergiques aux religions. Ils sont allergiques à des dieux puis des affaires de même. Mais ils viennent à nous. Puis on développe des relations avec eux. Puis c'est long. T'sais, regardez comment c'est fait. Il y a un poêle là-bas dans le coin. On dirait un salon cuisine. La cuisine est là. Ils rentrent, prennent un Pepsi, un café, ils s'assisent, puis on jase. C'est vraiment intéressant. En tout cas, j'ai pas le temps. J'ai des témoignages incroyables. Jusqu'à moins quart. Ah, j'ai du temps. Hier, j'ai eu une bonne nouvelle. Je veux vous partager un témoignage d'un Atikamek, justement, parce que hier, j'ai eu des nouvelles parce que j'ai rencontré son frère. C'est juste après la construction du bain. Pendant la construction du bâtiment, il était 4 heures du matin. Moi, j'étais campé dans une petite roulotte qu'on s'était fait donner. Les autres étaient couchés dans les tentes. À 4 heures du matin, on entendait quelqu'un crier en Atikamek, tu sais. Puis des bruits de poc, poc. Tu sais, on était en train de construire le bâtiment. Puis là, on était à 4 heures du matin, on sort. On regarde, puis il y a un gars. Il est grand de même, là. Il est pas petit, puis il est large de même, là. Puis là, il est là, puis il est à moitié chaud, puis... Bang! Puis j'ai rush notre super beau bâtiment flambant neuf qu'on est en train de construire, là. On est comme, bon, 4 heures du matin, le soleil est en train de se lever doucement. Là, il parle en sa langue, on comprend rien. Il sent boisson à tour de bras. On va le voir. Hey, you! Tu sais, viens-t'en, mon ami, qu'est-ce que tu fais là, tu sais? Fait que là, j'ai un autre gars, je regarde, on va faire du café. On va essayer de le calmer un peu. Finalement, on réussit à l'amener, on l'invite avec le café. Il vient s'asseoir. Là, ça a été un peu long et pénible au début parce qu'il était vraiment intoxiqué, mais après une quinzaine de minutes, il commence à nous parler comment il avait été violé par un curé dans cette école-là. Parce que notre bâtiment, c'est une ancienne école. Puis l'auberge qu'on va acheter, c'est l'ancien presbytère. Ouais, c'est débile. Comment Dieu a un sens du mot tordu. Mais et là, il commence à nous raconter comment il avait 3 ans, 4 ans, 5 ans, puis il se faisait violer dans ce bâtiment-là, tu sais. Puis lui, quand il l'a vu démoli, il dit, ça m'a amené tellement une joie incroyable. Puis là, il dit, il est en train de réapparaître. Il était pas content. Mais on l'accompagne là-dedans, tu sais. Puis on lui dit, écoute, on l'a démoli, puis on a nettoyé les fondations. Puis ce qu'il va y avoir de nouveau là, c'est justement pour amener renaître dans quelque chose de nouveau. Puis on y parle, mais on n'a pas réussi à faire grand-chose cette journée-là. Ça, c'était à l'été. Il repart dans le bois, puis on l'a perdu. Il est revenu à pied, il est parti à pied comme il est venu à pied. Puis pas de la communauté, il a repris l'autre bord du bois. On savait à peu près rien de lui. Rendu au mois de septembre, j'étais un soir avec Jean-Monique Couture, un de mes couples qui travaille là-bas depuis 2006. On est dans le bâtiment en train de jaser, puis on n'a pas de visite à rien. Puis d'un coup, la porte, elle ouvre. Il fait noir là, dehors, parce qu'on est en plein milieu du bois. On n'a même pas d'électricité là-dedans. On a une génératrice, là, mais... Là, la porte, elle ouvre, c'est lui qui arrive. Puis là, on est comme, bon, ça va aller comment, là, tu sais? Il rentre, tu sais, on lui offre un café. Il sent un peu la boisson, mais pas si pire. Fait qu'on l'invite à s'asseoir. Puis il est vraiment nerveux, là. Il a de tension, là. Il tient comme une barre, là. Là, tu te dis, c'est quoi, là? Puis là, il commence à jaser, puis il dit, tu sais, je veux pas me suicider. Je veux pas te suicider. D'habitude, ils viennent te voir et te dire, je veux me suicider. Là, il vient te voir et dit, je veux pas me suicider. Là, je dis, bon, là, je manque des bouts dans l'histoire. Fait qu'on commence à jaser, puis je veux pas aller parce que je vais manquer encore de temps. On commence l'histoire. Cet homme-là a vu son frère jumeau se suicider. Son frère qui est venu le voir, puis il a dit, Matachi, au revoir, qui est parti, puis s'est pitché en arrière d'un 10 roues de terre, puis qui a mis sa tête en alentour de la roue. Il a vu son ami suicider, son ami le plus proche. Il était dans son camp de trappe avec lui. Son ami a fait la même chose. Il m'a attaché. Il a mis le dos en bouche. Pow! Il y a plein de ses amis qui se sont suicidés. Puis on continue à parler, puis il me raconte sa vie. Puis après ça, il en vient à son père. Puis là, c'était mélangé. Une espèce de mélange de haine, de colère, puis en même temps un amour profond. Fait que là, je commence à démélanger l'histoire de son père. L'histoire de son père qui avait été abusif avec lui. Qui l'avait battu, qui l'avait agressé. Mais son père qui avait accepté le Seigneur avec des cris de la baie James. Puis que sa vie avait tout changé, puis que pour lui, son père était devenu tout. Fait que là, j'ai dit, ben, ton père avait accepté Jésus. Il dit, oui. Fait que là, il nous met à nous parler de Jésus-Christ, puis il dit, salut en Jésus-Christ, puis il connaît tout le message, le gars. On est comme, wow. T'sais? Le seul qui l'a entendu prêcher, c'est son père qui lui l'a entendu d'un cri. Il n'a jamais mis pied dans l'église, ce gars-là, de sa vie. Fait que là, il commence à nous parler de ça. Mais là, son père est mort, puis lui, il a arrêté, puis il est devenu hargneux, puis il s'est isolé. Puis après ça, il a commencé à subir de l'oppression démoniaque. Ici, on n'est pas familier avec ça. Mais lui, à ce moment-là, quand on a jasé avec lui, il subissait de l'oppression démoniaque de 11 démons, continuellement. Ça faisait un an et demi qu'il vivait isolé dans une petite cabane dans le bois, qu'il n'avait plus de contact avec sa femme, ses enfants, qu'il ne travaillait plus, qu'il faisait juste s'intoxiquer à longueur de journée. Puis c'est là qu'il vient de « je veux pas me suicider », c'est les 11 démons qui étaient après lui, ils disaient, ah ouais, suicide-toi, va rejoindre tes amis, va rejoindre ton frère, va rejoindre ton père, va rejoindre tout ça. Puis qu'il n'arrêtait pas de l'oppresser, il n'arrêtait pas de l'oppresser, il n'arrêtait pas de l'oppresser. Là, j'ai demandé, je dis, ben pourquoi tu es venu ici à soir? Il dit, ah, parce qu'il y a un autre esprit qui m'a visité, puis il m'a amené à vous autres. Là, t'es comme, ouf, puis il est rendu 10 heures le soir, là. C'était comme des petits papillons dans l'estomac. T'sais? On a parlé avec lui. On a parlé du salut. On a parlé de la vie chrétienne. Je lui ai enseigné que Dieu était tout puissant au-dessus des puissances. Que c'était à lui à prendre Dieu et à crier à Dieu de le délivrer de ces choses-là. On a prié avec lui. Moi et Jean, j'ai dit, bon, viens-t'en, on va te reconduire à ta cabane dans le bois. Embarqué à 11 heures le soir dans le camion. À 11 heures le soir, si vous avez été dans le bois un peu, là, les chemins forestiers, 11 heures le soir, avec un gars qui vient de te raconter qu'il y a de l'oppression de 11 démons dans sa cabane là, tout le temps. Là. Nous autres, dans le bois, là, t'es en dedans. Qu'est-ce qui va se passer là-bas, tu sais? On est arrivé dans la cabane, c'est pas rien passé. On a été prié avec lui, mais quand on est arrivé dans la cabane, la corde était attachée après le poteau. Il y a un beam au centre, là. Il y avait une corde avec un nœud coulant. Puis la carabine était dans le coin et était chargée. Puis il dit, les démons, là, il dit, pourquoi t'as mis ça là, tu sais, si tu voulais pas te suicider? Ah, il dit, c'était pour acheter la paix. Tu sais? Il dit, pour qu'ils me foutent la paix. Mais je dis, ah, j'aurais fini par le faire. J'ai eu les nouvelles hier. Je n'avais eu avant, mais je n'ai eu encore hier. C'est incroyable. Il a arrêté de boire à partir de cette journée-là. On a prié avec lui. Il a été pris en main par des jeunes de notre équipe pendant un mois et demi de temps. Après ça, il est parti en thérapie. Il ne boit plus. Il a renoué contact avec sa femme, avec ses enfants. Il revit avec ses enfants. Et actuellement, il est à la ramène. Il travaille sa construction. Il en reste 40 000 autres demain. Oui. On peut tourner les photos vite, là. J'ai pris tout le temps ce témoignage. Ça, c'est des repas communautaires. Notre programme d'été pour les étudiants que ça peut intéresser. Tu peux tourner juste les images rapidement. Oui. On vit avec eux. On fait ce qu'ils font au quotidien, tanner des pots. Ça existe encore aujourd'hui. Ça, c'est notre projet, justement, de développer un centre de guérison avec la fameuse auberge que je vous ai parlé tantôt. C'est ça. Ma maison est à vendre sur la Côte-Nord. Je vais déménager dans la région de la Tuque avec ma famille. Puis notre priorité dans les 4 prochaines années, c'est de développer les programmes puis développer le centre de guérison en même temps que continuer à travailler à implanter des équipes dans les communautés. Fait que c'est ça qui clôt ma présentation. Je manque tout le temps de temps. Je pourrais vous en parler pendant des mois. C'est Roméo, oui. Roméo Grégoire. Un autre témoignage de vie que je pourrais compter, c'est des histoires de fous. Vous allez trouver en arrière une feuille, vous pouvez marquer vos noms avec votre adresse courriel. On va vous envoyer des lettres de nouvelles, puis vous allez avoir accès à un site caché sur Internet où vous avez toutes nos histoires de nos lettres de nouvelles antérieures. Fait que si vous les l'écrivez en arrière, il y a des enveloppes avec ma lettre de nouvelles personnelle, puis un dépliant de l'organisme. Gênez-vous pas, prenez-en. Si en manque, il y a une boîte en dessous, gênez-vous pas. Fait que merci beaucoup.